cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Daniel Ivinec.
Bonjour Marc.
Alors Daniel Ivinec, toujours directeur artistique de l'ONG depuis déjà un peu plus d'un an, je crois.
Un an et demi, oui.
Pour un nouveau projet, qui s'intitule Tais-toi et danse, Shut Up and Dance.
Absolument.
Donc c'est le deuxième album de l'ONG dont vous êtes le directeur artistique. Un invité, on pourrait dire, s'est glissé dans ce projet. C'est pas Robert Wyatt, contrairement à au premier épisode. Ce n'est pas Billy Holiday non plus, ni Carmen. C'est John Hollenbeck, qui est un batteur, compositeur, chef d'orchestre de big band, etc. Vous nous parlerez d'ailleurs un petit peu de lui, parce qu'il n'est pas excessivement connu en France.
Je suis son travail. Donc
Alors avant de parler peut-être de ce nouveau projet, tout simplement, peut-être la question de base, c'est comment va l'ONG au bout d'un an et demi ?
Il va bien, merci. Non, l'ONG va très bien. On est dans une phase... la vie d'un directeur artistique d'orchestre national de jazz, c'est assez particulier parce que, enfin, dans mon cas, j'ai tout un peu remis à zéro en arrivant, monté un orchestre de toutes pièces avec des gens qui se connaissaient pas, que moi-même je ne connaissais pas, fait une série de rencontres avec des musiciens un peu dans tous les lieux où j'ai pu aller, farfouiller sur Internet, etc., fait des auditions, à peu près 300, je crois. Voilà, donc j'ai monté cet orchestre avec des forces incontestables, musicales et humaines, et en même temps des gens qu'il allait falloir faire cohabiter sous les mêmes auspices, sous les mêmes toits. Et donc des gens, c'était une idée aussi de montrer un peu que les querelles de chapelle étaient peut-être un peu vaines et que... il fallait un peu réconcilier tout ce petit monde qui finalement n'est pas si fâché que ça et se dire que quelqu'un qui vient du free, quelqu'un qui vient de la musique électronique, quelqu'un qui vient du bebop, ils ont des choses à se dire. Et voilà, donc aujourd'hui, après un an et demi de travail assez intense, donc on en est au quatrième projet monté, dont deux... un disque est déjà sorti, le second va voir le jour dans un petit mois, 30 septembre pour être exact. Le bilan, il est qu'on a un vrai groupe maintenant. On n'a plus un orchestre d'individus, mais un groupe qui se tient vraiment. J'ai l'impression un peu d'avoir... d'être à la tête d'un groupe comme il existe dans le rock, quoi, c'est-à-dire des gens assez différents, avec des points de vue assez différents sur la musique, et avec une vraie envie d'aller ensemble quelque part. Donc voilà, le quelque part, c'est moi qui dois le définir. Et puis, tout en étant à l'écoute de chacun, en essayant de leur donner un peu des pistes ou d'endroits où ils ne seraient pas forcément allés sans moi, etc. Et puis voilà, sur le plan purement factuel, l'ONG va plutôt bien, puisqu'on a vendu, quelque chose comme 15 000 copies du Wyatt, si mes renseignements sont bons, donc ça c'est quand même vraiment bien.
En temps de crise du disque, c'est plutôt pas mal à venir sur un projet comme ça.
On a eu une victoire de la musique, on ne va pas s'en plaindre. C'est un disque qui a été très bien compris. Évidemment, il y avait le risque que ce soit avec la pléiade d'invités, Wyatt, Camille, Yael Naïm, Arnaud, enfin tout un tas de gens comme ça, on aurait pu se dire c'est un projet un peu showbiz, machin, etc. Moi, c'était pas du tout mon idée. Mon idée, c'était de mettre dans un contexte différent des gens qui ont une personnalité très forte. Bon, on va pas revenir sur ce disque, mais en tout cas, les gens ont bien compris la démarche et finalement, les regards se sont tournés vers l'orchestre et vers cette nouvelle démarche, et c'était un peu la gageure que je m'étais donnée. Et, Et aujourd'hui, bah, on a de plus en plus de concerts, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une rentrée hyper active, ouais. On a, je sais pas, on a, je crois 12 ou 14 concerts au mois d'octobre. Enfin, on a plein de trucs dans l'automne. On va faire un gros truc au Théâtre du Châtelet aussi le 25 janvier. Enfin bon, il y a pas mal de trucs à l'étranger aussi, l'étranger qui frétille pas mal sur cet orchestre. Bon, mon idée, c'était de monter un orchestre qui ressemble à aucun autre.
Donc, je me souviens aussi, quand on s'était rencontrés, quand vous aviez pris en main l'orchestre, il y avait un enjeu qui avait l'air aussi important pour vous, c'était de faire comprendre ce titre qui changeait, qui n'était pas de directeur musical, mais de directeur artistique, quelque chose auquel en France, on est peu habitué.
Ça a pris un peu de temps, ça forcément, parce que effectivement, c'est pas forcément une fonction qu'on connaît très bien ici, que forcément, quand on est habitué depuis plus de 20 ans à avoir des directeurs musicaux, donc qui viennent avec leur musique, souvent leurs musiciens, jouer et composer de la musique, et qu'après on voit débarquer quelqu'un comme moi qui n'ait jamais conduit un big band et me retrouve finalement dans une situation où je ne suis pas réellement directeur musical d'un big band, mais je suis directeur artistique d'une formation qui est donc l'Orchestre National de Jazz. Et ma fonction, ma mission, enfin mes missions parce qu'elles sont nombreuses, mais en gros, c'est de concevoir des projets, de partager l'outil avec des compositeurs, des arrangeurs, etc. Sous ma supervision très attentive et très active, mais bon voilà, l'idée c'est de vraiment faire circuler ce truc-là à la fois en France, aussi à l'étranger, etc. Donc on l'a fait pour le Wyatt avec Vincent Artaud, on l'a fait pour le Biolidé avec Alban Darche, on l'a fait avec les musiciens eux-mêmes à qui j'ai confié l'écriture, évidemment sous ma supervision, mais du Carmen, qui était une partition à 20 doigts. C'est ça ? Non, à 100 doigts. 10 fois 10, 100. Et donc voilà, et donc du coup, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était... en fait, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que j'avais en tête cette idée de faire quelque chose autour du mouvement, de la danse, une espèce de forme d'étude sur le rythme, mais au sens très large.
Justement.
Parce que c'est un truc qui m'a toujours obsédé. D'abord, je suis bassiste. Un bassiste, ça réfléchit beaucoup à ce que c'est que le rythme. Et ça réfléchit à ce que c'est que le rythme dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois en le jouant de manière ostentatoire, ce que j'ai fait quand, je sais pas, je jouais avec Salif Keita ou Maceo Parker. Il n'y a pas vraiment 36 000 manières de faire tourner un morceau. Après, il y a des circonstances dans lesquelles c'est plus subtil que ça, où on suggère des choses, on prend des options plus de contrepoint, de contre-champ, enfin, etc. Donc je pense qu'en tant que bassiste, on donne beaucoup de direction finalement artistique à la musique, sans que les gens s'en rendent forcément compte, parce que le bassiste, c'est toujours un peu l'oublié du groupe, c'est celui...
Les batteurs disent que c'est eux parfois aussi.
Les batteurs, ils disent beaucoup de bêtises. Non, mais enfin, on remarque souvent plus un batteur qu'un bassiste. Mais après, le bassiste, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la fonction de bassiste, c'est que finalement, on distribue les balles, mais personne ne le sait. Et moi, je trouve que c'est un poste sur le terrain qui est absolument jouissif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas buteur, on est plutôt demi-centre, comme j'étais quand je faisais du handball quand j'étais petit. Et en fait, on distribue plein de trucs, mais les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est vous qui le faites, quoi. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et donc je me suis, à la faveur de ce projet-là, posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait générer une émotion rythmique chez l'auditeur. Avec quoi on pouvait générer des émotions rythmiques autrement que par une rythmique basse-batterie et puis des solistes qui improvisent par-dessus. C'est des questions que je ne suis pas le premier à me poser. Hein. C'est des questions qui se sont évidemment beaucoup posées dans toute l'histoire de la musique classique, puisque dans la musique dite classique, on n'a pas le rôle des instruments n'est pas basé sur le fait de... d'avoir une rythmique qui tourne et des instruments qui jouent des mélodies par-dessus. C'est beaucoup plus subtil que ça. Les rôles des instruments changent. Enfin, c'est, voilà, donc on a beaucoup réfléchi à ça avec Hollenbeck. Enfin, j'y avais beaucoup réfléchi en amont et l'idée, c'était de me dire, bon, comment on peut un peu redistribuer les cartes dans un orchestre, donner des responsabilités à des instruments qui ne les ont pas forcément habituellement ou pas d'une manière aussi flagrante, et qu'est-ce qui peut faire naître du mouvement dans la musique. Voilà, c'était un peu ça le sujet au départ, quoi. Et tout ça basé sur 10 mini-concertos écrits très spécifiquement pour chacun des membres de l'orchestre.
Et donc John Hollenbeck est rentré comment dans toute cette histoire, et parlez-nous justement peut-être un petit peu de ce musicien, batteur, compositeur.
Alors etc. John Hollenbeck, il est rentré dans cette histoire par Internet, parce que en fait, alors une coïncidence assez incroyable, c'est-à-dire que j'avais noté sur mes tablettes 2-3 noms, pas plus, 2 noms pour être tout à fait exact. J'avais enfin sélectionné 2 noms comme potentiel compositeur pour ce projet-là. Et en numéro 1, il y avait Hollenbeck. Et donc, c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis assez longtemps. Il est batteur, il fait beaucoup de choses. Il compose pour grandes formations, il joue dans des petites formations, il a des projets très divers avec plein de gens, dont Chris Speed, Théo Blackman, enfin plein de gens très intéressants. Il travaille avec Meredith Monk, il fait de la musique contemporaine. Il a une grosse culture, c'est quelqu'un de très vivant et très actif. Et moi, il a un truc qui s'appelle le Claudia Quintet aussi. Voilà, moi, je suis son boulot depuis très longtemps. Au début, ses disques étaient pas du tout, enfin très mal distribués par chez nous, ou en tout cas peut-être pas du tout. Puis petit à petit, c'est arrivé. Voilà, bon, moi, crapahutant souvent un peu partout, et en particulier aux États-Unis, j'ai assez rapidement pris connaissance de sa musique qui me plaisait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait une pensée d'écriture qui était différente de beaucoup de trucs que j'entendais dans le jazz, et une réflexion sur justement la distribution des instruments, sur des influences qui ne sont pas simplement issues du jazz, mais aussi de la musique contemporaine, de la musique répétitive, de tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, et un jour, alors que j'étais en pleine réflexion sur ce projet, et en train de plus ou moins me dire, bon bah voilà, il va falloir que je prenne mon téléphone ou mon ordinateur, et que je prenne contact avec lui, je reçois un mail de John Hollenbeck.
Comme dans un conte de fées.
Voilà, qui me dit, écoutez, voilà, je ne sais pas si c'est le bon Daniel Livinec, mais voilà, je viens d'entendre à la radio, j'ai entendu la radio américaine Around Robert Wyatt, hein, il avait entendu un titre, il a acheté l'album sur iTunes, et puis sur Cobos, pardon. Et
c'est pareil.
et voilà, et du coup, bon, il y a un truc qu'il a interpellé là-dedans. Il a trouvé le projet intéressant, et il a été aussi très séduit par le son de l'orchestre, par cette espèce de géométrie un peu particulière. Il n'y a pas tous les postes du big band habituel, il y a beaucoup de polyinstrumentistes, il y a de l'électronique, enfin, il y a un mélange de choses assez, assez riche. Voilà, donc il me contacte en me disant, bon voilà, moi, j'ai écouté ça, après je suis allé sur ton site, MySpace, écouter des trucs que tu fais, et il me proposait une collaboration en tant que contrebassiste, parce qu'il avait entendu d'autres trucs, avec, je crois, c'était Théo Blackman et Ben Monder, il me semble. Et bon, c'était évidemment intéressant, mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je sois honnête dans mes intentions et que je lui fasse part de mon intention première. Voilà, et donc du coup, je lui ai dit, bah voilà, moi je suis en train de préparer ça, est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, donc j'ai pris un billet d'avion, je suis allé à New York, on a passé un moment ensemble à réfléchir à tout ça. Je l'ai mis un peu sur les rails de tout ça. On a aussi bénéficié d'une aide à la création franco-américaine qui s'appelle Chamber Music America.
Comment il a réagi au début par rapport à cette problématique, mais ce thème de départ, cet aspect, le rythme,
bah, danse, il était etc. assez excité par le truc. Mmh. Ouais. Après, il était. C'est pas facile pour un compositeur de se retrouver avec un sujet comme ça.
Ce que j'allais dire, presque enfin, imposé, entre guillemets. Ouais. Mais, c'était en fait, pas on va collaborer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire, non. Essayons-nous, etc.
En fait, moi, j'ai préféré être un peu alarmiste dès le début. Je lui ai dit, écoute,
c'est rien.
Je vais être chiant. Il faut savoir que je vais être sur ton dos enfin tout le temps, que ça fait partie du deal de départ. Et lui, il m'a répondu, il m'a dit « you're a producer ». Comme c'est dans la culture américaine, pour lui, ça tombe sous le sens. Donc après, quand je lui disais que j'allais être pénible, c'était pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais c'était juste de lui faire comprendre qu'on allait réellement collaborer et que je suivrais toutes les étapes de la création, etc. Donc voilà, donc on a beaucoup discuté. On a écouté plein de musique ensemble, des trucs...
Quoi, par exemple ?
Je lui ai fait une liste de trucs, mais alors vraiment... ça allait de la musique des Gnawa du Maroc à Talking Heads, en passant par James White, en passant par des trucs de Duke Ellington, en passant par... je me souviens même
jukebox
plus.
Jukebox personnel.
Mais,
très
ouais, large. Mais c'était pas lui faire écouter mes fétiches.
Par rapport à ce, voilà. Par
exemple,
à ce projet.
Je prends l'exemple de Talking Heads. Ce qui m'intéressait en Talking Heads, c'était lui montrer comment, à l'arrivée de Brian Eno, il y avait eu une espèce d'intégration de l'Afrique, mais pas du tout comme carte postale africaine, mais comme partie intégrante d'une démarche rock. Dans laquelle on aurait glissé des grooves africains, mais on ne les entend pas comme des grooves africains. Et c'est ça qui m'intéresse.
Ça reste les Talking Heads, si voilà. On parle de l'album Remain in Light, c'est, voilà. Vrai, c'est vraiment...
C'est un disque qui a beaucoup compté pour moi. Et, je prends cet exemple au hasard, mais il y avait énormément d'exemples. Ce n'étaient pas des exemples de ce que j'avais envie d'entendre, c'était des exemples de démarches que je trouvais convaincantes, justement, dans ce sens de, d'exploitation. Il y avait de la musique répétitive américaine, il y avait Autechre, il y avait de la musique électronique, il y avait enfin plein de choses, il y avait des trucs de jazz des années 30 aussi, où j'avais entendu des choses qui m'avaient pas mal interpellé sur le plan justement du travail, du rythme et tout ça.
Alors comment on fait le ménage après dans tout ça, parce que finalement c'est un peu l'histoire de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un projet au bout qui doit aboutir, ouais. Avec en plus 10 pièces, un album, etc., 10 musiciens, donc quand on met dedans dans cette grande marmite tous les noms que vous venez de citer, plus sa personnalité à lui, avec son background, le vôtre, etc., comment on arrive, est-ce que par exemple il y a eu des problématiques au début qui n'ont pas été évidentes, déjà de collaborer avec quelqu'un avec lequel on n'avait jamais collaboré jusqu'ici?
Alors bizarrement, c'est pas parce que c'est une interview que je dis ça, mais il n'y a pas eu de problème du tout. Après, il a fallu que j'insiste sur certains points qui étaient peut-être moins importants pour lui et plus pour moi, mais il n'y a pas eu d'incompréhension. C'est-à-dire déjà, les trucs que je lui ai fait écouter, il y avait plein de choses qu'il connaissait déjà. On a assez vite parlé le même langage. Après, le fameux entonnoir dont vous parlez, c'est pour moi, c'est plus de faire naître, d'éveiller une pensée plutôt que de dire, voilà, on va... chez Talking Heads, prendre tel truc, chez Duke, prendre telle chose. Moi, j'ai beaucoup pensé à Duke Ellington pendant l'élaboration de ce projet, parce que ce qu'il y a de fantastique chez Duke Ellington, c'est quelqu'un qui avait en gros la charge de faire danser les gens, mais qui était tellement génial en tant que compositeur qu'il a réussi à parler à la tête et aux jambes en même temps. Bon, moi, c'est un truc... pour moi, c'est le truc ultime, c'est-à-dire que c'est ce que, en gros, on arrive à faire quand on s'appelle les Beatles ou Jean-Sébastien Bach ou Mozart ou Stevie Wonder. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent à tous les niveaux de compréhension du public, quoi, enfin des gens. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que chez Duke, il y a un truc totalement immédiat. C'était une musique populaire. Et en même temps, il y a un côté très savant et très sophistiqué quand on prend le temps d'écouter. Et finalement, moi, j'ai toujours eu cherché à avoir ces composantes dans ma musique. Ces différents niveaux de lecture, tout ça, c'est un truc qui a toujours été un peu obsessionnel chez moi. C'est pas la quête absolue, mais j'ai toujours... envie de cacher dans mes disques des petits trucs qui mettront du temps à se révéler et en même temps j'ai envie qu'elle soit limpide, cette musique, donc c'est toujours difficile, hein, et quand je dis limpide, c'est pas pour vendre beaucoup de disques ou pour avoir ma photo partout, c'est parce que je fais de la musique pour les gens qui l'écoutent, mais je fais pas de la musique pour que les gens l'écoutent. C'est pas tout à fait... Il y a une petite nuance, quoi. Donc, du coup, j'ai envie parfois de je sais pas, que les choses soient. C'est assez compliqué d'expliquer ça, parce que moi-même, je ne suis pas sûr d'être tout à fait en possession des moyens de le faire. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'envie de me dire, tiens, si je fais écouter telle musique à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est souvent d'ailleurs mes points, enfin c'est souvent mes points de référence quand je termine un projet, les premières personnes à qui je le fais écouter, c'est souvent des gens qui ne sont pas musiciens et qui ont un regard assez frais sur ce que je vais leur faire écouter, un esprit critique débarrassé de tous les a priori qu'on peut parfois avoir quand on est finalement quand on charrie trop ses bagages culturels avec soi. Et finalement, je me suis rendu compte enfin, au fur et à mesure que pour moi, l'auditeur idéal, c'est celui qui laisse ses bagages au vestiaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des connaissances absolument phénoménales en musique, être un historien émérite, être un passionné, collectionner des disques, comme c'est mon cas d'ailleurs. Mais moi, je sais que personnellement, quand j'écoute de la musique, je suis comme un enfant. C'est-à-dire que je suis le même que quand j'avais 12 ans et que je mettais un
C'est un exercice
vinyle.
difficile, c'est un peu proche du yoga quand même, parce que arriver quand même, quand justement on arrive avec, c'est presque plus fort que soi finalement,
Bah, en fait, non,
de
parce
tout de suite se dire,
que.
tiens, ça me... le classique, on entend quelque chose pour la première fois, de répondre du but en blanc, ah, ça me fait penser à. Un peu tout le monde l'a
Ouais,
fait, je pense.
alors à la fois, moi, en fait, ce qui me guide, c'est le plaisir. C'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle je fais les choses que je fais, bon, mis à part les lessives, la vaisselle et des choses comme ça, et les factures, c'est le plaisir qui me guide. Et en fait, je me suis toujours. J'ai toujours eu un œil dans le rétro en me disant, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien guidé par le plaisir? Bon, et quand j'écoute de la musique, évidemment, je peux écouter la musique de manière très analytique parce que quand je produis beaucoup de disques, donc du coup, on me demande cette faculté-là et je pense que c'est une faculté que j'ai développée. Mais on peut avoir cette acuité et aussi le recul d'un auditeur complètement débarrassé de tout préjugé. Et dans ce sens-là, je pense souvent au cinéma, parce que quand on va au cinéma, moi je suis très cinéphile, moi je m'assois dans un fauteuil, et au moment où le noir se fait, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Je ne sais pas où va m'amener le réalisateur, je ne sais pas dans quelle, je sais pas, histoire je vais me retrouver embarqué. La plupart du temps, quand je vais au ciné, je ne lis rien sur les films que je vais voir parce que je n'ai pas justement envie d'être pollué par ça en amont. Après, souvent, je farfouille pour voir ce qu'en pensent les autres. Et finalement, je me dis que vis-à-vis de la musique, quand on arrive à générer cette espèce de lâcher-prise chez l'auditeur, c'est peut-être là qu'on est le meilleur finalement. Et c'est peut-être là qu'on va aller au plus profond des gens et qui ne se poseront pas la question de savoir finalement quel est le sens de ce qu'ils écoutent parce que c'est pas ça qui est important. Le sens de ce qu'on écoute, comment ça s'inscrit dans l'histoire, à qui ça emprunte ou pas, c'est pour moi, c'est des questions qu'il est légitime de se poser, mais c'est pas là que se cache le réservoir à émotion, quoi. Enfin, le réservoir humain, il n'est pas là pour moi, il est ailleurs.
Thank you.
Donc la première rencontre, c'était Julian Beck et vous, et ensuite, puisque c'est quand même écrit sur le fronton du cinéma, Orchestre National de Jazz. Donc comment s'est déroulée la rencontre entre les 10 solistes de l'ensemble de l'orchestre et le compositeur, celui qui amenait la musique?
Donc alors ça c'est une rencontre que moi j'ai voulu, enfin ça a été la seconde rencontre avec lui, car après le travail qu'on a fait à New York, je lui ai proposé de venir tout de suite rencontrer les musiciens de l'orchestre le plus rapidement possible. Donc on a organisé une rencontre dans une salle qui est pas très loin d'ici. Et donc voilà, moi je voulais une rencontre un peu informelle dans un lieu justement qui soit pas forcément un lieu de répétition, etc. Lui étant batteur, l'idée c'était qu'il joue avec les musiciens. J'avais divisé la rencontre en deux parties parce que je voulais pas qu'il se retrouve avec 10 personnes sur le dos tout de suite. Donc on s'est vu par groupe de 5. Moi j'étais là pour superviser tout ça. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup renseigné sur chacun aussi en amont. Et a posteriori aussi. Et lui a organisé des espèces d'échanges musicaux basés sur des choses assez simples, où il a fait finalement bosser les musiciens sur des trucs de rythme, de choses comme ça. Et c'était lui son moyen de les connaître. Et donc on a passé deux journées comme ça assez riches où les informations ont circulé. Étrangement, c'était pas tellement des échanges verbaux, c'était vraiment de l'échange de musique et d'impressions, de choses comme ça. Il a capté énormément de choses de ces rencontres-là, parce que moi, chaque soir, j'ai eu des longs débriefs avec lui là-dessus. Et en fait, j'étais très soucieux de lui apporter le plus d'infos possible sur chacun. Et je me suis rendu compte que toutes les informations complémentaires que je lui donnais, pratiquement, il les avait déjà intégrées dans l'impression qu'il avait eue de chacun, quoi.
Et dans l'autre sens, comment sont faits les retours, j'allais dire, des 10 individualités vers vous? Est-ce que...
Alors, ils étaient assez surpris, parce qu'ils ont été presque malmenés à la... Enfin, j'exagère, mais... C'est-à-dire que le passage à l'acte s'est fait sans préliminaire, quoi. C'est-à-dire, lui, il est arrivé, il s'est installé à la batterie, il a dit « Ok, bon, alors on va faire ça. Voilà, une mesure à 3 temps, très lente. Il a bâti un truc à partir de choses... très simple, mais finalement pas si facile que ça à jouer. Donc du coup, on s'est retrouvé au boulot tout de suite. Donc pour les musiciens, c'était un petit peu déstabilisant au début, et c'était pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est bien d'être déstabilisé quand on est un bon musicien, on en a besoin, je pense.
Un jeune musicien, en plus.
Et en plus, ouais. Et donc du coup, mais ils ont compris en fait, parce qu'ils ont compris, en fait, ces choses-là, ça se comprend par la force de la conviction de la personne qu'on a en face de nous, c'est-à-dire que... Hollenbeck, c'est quelqu'un d'assez profond et quand il demande un truc, il sait pourquoi il le demande. Donc la personne en face, elle répond et elle se pose pas trop de questions parce qu'elle y croit tout de suite, quoi. Il y avait cette force-là qui s'est installée assez vite, quoi.
Ensuite, comment s'est fait un peu l'assemblage? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 chapitres dans ce livre. Ça s'est fait naturellement, il y a eu beaucoup d'échanges, le travail, j'imagine, était intense.
Ouais, alors après, on a... Ça a été très dispersé sur le plan géographique parce qu'on s'est couru après, parce que John est quelqu'un d'assez occupé, puis bon, moi-même je suis pas toujours disponible non plus. Donc un jour on se calait 4 jours à Brême parce qu'on y était au même moment. Après moi je suis parti à Berlin où Hollenbeck, qui est New-Yorkais, réside en ce moment. Donc je me suis planté là-bas et on a bossé tous les jours ensemble dans une salle de répétition avec un piano et où on checkait chaque truc, etc. Donc voilà, on a énormément travaillé ensemble à lui montrer ses idées. J'ai essayé de l'amener vers des choses, de le pousser dans des choses qui me paraissaient intéressantes, de l'amener vers des choses un peu différentes, de recadrer le truc par rapport aux propos de départ autour du rythme, du mouvement, etc. De le ramener aussi vers les musiciens quand parfois... Mais globalement, c'était plus d'avoir 6 cylindres plutôt que 3 que d'avoir 2 points de vue extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on a augmenté notre puissance de feu parce qu'on était deux à travailler là-dessus. Alors après, il y a un truc intéressant, c'est que j'ai réécouté la musique de Hollenbeck après, parce que je ne voulais pas les réécouter avant. Et lui-même m'en a assez longuement parlé après quand le projet a été terminé. C'est très très différent de ce qu'il fait sous son nom. Et ce qui prouve finalement qu'on a réussi notre collaboration, parce que lui, il était attiré par l'orchestre parce qu'il savait que ça allait l'amener ailleurs. Il a été attentif à mes demandes parce que je pense que quelque part, il s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de découvrir des facettes de moi-même que je ne connais pas. Ça a été le cas sur le Wyatt, il y a eu beaucoup ça entre Vincent Artaud et moi aussi, cette espèce de truc où on sentait qu'on s'apportait l'un à l'autre des choses assez essentielles et qu'on irait plus loin à deux finalement. Ça demande beaucoup de confiance, et à la fois en l'autre et en soi aussi, de savoir que même si on écoute l'autre, on ne sera pas dépossédé de sa propre marque de fabrique finalement. Et donc en fait, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a élaboré tout ça ensemble. Hein. On a aussi évidemment correspondu pas mal par internet et tout ça, parce que c'est quand même un moyen assez pratique de s'échanger de la musique et tout ça. Et puis en fait, ce qui était intéressant et à la fois un peu affolant, mais moi j'aime bien parfois les situations un peu affolantes, mais c'est qu'en fait on s'est retrouvés à l'aube des répétitions, donc 2 jours avant les répétitions, avec un canevas très précis de ce qu'on allait faire, mais avec plein de trous dedans. C'est-à-dire des morceaux qui étaient ébauchés, avancés à 40%, d'autres à 80%, d'autres à 30%. Enfin, il y avait un côté comme ça un peu.
C'était volontaire ? C'était pour amener un peu de liberté pendant l'enregistrement ou...
C'était à la fois circonstanciel et volontaire. C'est-à-dire que c'était circonstanciel parce que même si on essaye d'être organisé,
oui, c'est impossible de tout,
c'est toujours, on ne peut pas tout maîtriser. Donc lui, il est parti en Australie où il a été malade. Donc il n'a pas pu bosser comme c'était prévu. Enfin bon, il y a toujours des impondérables comme ça. La rencontre entre nous s'est faite finalement assez tard. Il y a eu cette histoire de bourse franco-américaine. On a passé du temps là-dessus. Le moment où le coup d'envoi a été donné... le match aurait pu commencer un peu plus tôt, quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie de musicien. Après, c'est à moi de gérer en tant que directeur artistique de l'orchestre ces aléas. Donc, j'ai toujours une espèce de, comment dire, d'airbag au cas où. Donc, j'avais quand même vraiment vu ça avec lui et j'avais veillé à ce que il soit capable, en l'absence d'un projet absolument ficelé, de revoir sa copie en fonction de ce qui allait se passer avec les musiciens. Alors, ce qui était intéressant là-dedans, c'était qu'on amenait une matière modelable en fonction de comment allaient réagir les musiciens. Donc en fait, on a travaillé avec les musiciens en répétition. Et en fait, au fur et à mesure de voir comment les choses se mettaient en place, tous les soirs, lui et moi, on se retrouvait, on faisait un gros débrief sur la journée, on prenait des décisions. Et lui montait dans sa chambre et il bossait, il réécrivait des trucs. Et le lendemain matin, à 10h moins le quart, j'avais 15 mails avec des partitions à imprimer qui allaient faire évoluer le truc. Donc ça a été une espèce de work in progress tout le long de cette résidence de création de ce projet. Et c'était absolument passionnant. Et c'était aussi un truc qui était extrêmement fort pour les musiciens parce que... je sais pas, j'ai le souvenir de moments où tel ou tel musicien... C'est un programme très difficile à jouer, un truc qui demande...
C'est danse quand même.
Ouais, c'est un vrai challenge.
Danse, mais pas écrit comme ouais. Danse, c'est assez...
C'est danse dans tous les sens du terme, ouais. Et c'est difficile à jouer parce que c'est de la musique qui n'est pas prévisible. C'est de la musique qui demande du temps, et qui demande du temps aussi à ceux qui vont l'écouter, je pense, de prendre vraiment le temps de se laisser embarquer, justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à... cette espèce d'attitude un peu sans préjugés. Et puis aussi de prendre le temps de réécouter, parce que moi je me souviens quand j'étais môme, j'écoutais parfois 15 fois un disque avant de trouver ça bien, quoi.
Ce que j'allais dire, c'est un peu un disque presque en contre-temps de la vie actuelle où on est tout le temps dans le speed, la vitesse, on réécoute finalement pas un milliard de fois les albums comme on pouvait le faire autrefois. Là, c'est un album qui est quand même double déjà, on l'a pas précisé au début. Donc il y a quand même une quantité de musique.
Ouais, c'est sûr. Moi,
On visite plein de pays en plus, enfin, musicalement. Ouais. On a parlé tout à l'heure de toutes les éventuelles influences diverses et variées. Concrètement, en termes d'instrumentation, c'est la même chose. C'est aussi très très vaste. Donc c'est vraiment en décalage presque. On a l'impression qu'on est appuyé sur la touche pause du temps. Et que
c'est un truc qui me tient pas mal à cœur. Moi, je suis quelqu'un d'assez actif, parfois presque hyper actif. Et puis j'ai des phases où il faut que j'arrête. Où je réponds plus au téléphone, où je regarde plus mes mails, où je devrais pas dire ça, ça fait pas sérieux, mais j'ai besoin de moments comme ça, parce que j'ai besoin aussi de prendre un peu de recul sur le fait qu'on n'est pas indispensable au fonctionnement du monde à chaque heure de sa vie, quoi. Donc,
Est-ce que c'est pas aussi une volonté parfois de digestion et de laisser reposer comme une pâte, mais la musique, tout ce qu'on emmagasine au quotidien, je pense que vous êtes une sorte de glouton de musique aussi, de son, et pas depuis maintenant, mais depuis toujours. Mmh. Donc il y a parfois, j'imagine, aussi le besoin vital presque pour un musicien d'essayer de laisser les choses venir partir.
Oui, mais c'est sûr. En fait, c'est un peu ce que font les écrivains quand ils marchent. C'est-à-dire que les écrivains, beaucoup d'écrivains sont de grands marcheurs. Quand ils marchent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils déconnectent l'horloge, en fait. Ils se reconnectent sur leur horloge interne. C'est-à-dire, quand on marche, quand on prend le temps de marcher, on pense, parce que justement, on n'est pas dans un truc où on sait qu'on a tel truc à faire ou qu'il va falloir répondre au téléphone ou qu'on ne marche pas pour aller à un endroit, on marche pour marcher. Et donc dans ce disque, il y a cette dimension-là de où je me dis finalement que je pense que les gens ont encore ce potentiel. C'est juste que on leur donne peut-être pas assez l'occasion de mettre ce muscle en marche, mais on peut prendre le temps de d'écouter un disque, de le réécouter, de ne pas le comprendre tout de suite et de s'y recoller après. Voilà, c'est Et mon pari aussi sur ce projet-là, c'était de me dire, on a fait trois programmes qui sont associés, dont le point de départ est un truc plus ou moins lié à soit des figures très fortes comme Wyatt, les invités qu'il y a autour du Wyatt, après la figure tutélaire de Billie Holiday et la gageure que c'est d'en faire quelque chose. En sachant qu'évidemment, on ne cherche pas à refaire la même chose que Billie Holiday, mais on prend ça comme point de départ d'une nouvelle aventure. Le Carmen, tout ça, c'était des choses qui avaient à la fois un impact public par le simple énoncé du sujet, et aussi un point de départ artistique où on devait réagir à une proposition émanant de l'extérieur, finalement. Là, l'idée, c'était de faire en fait de l'orchestre la star du projet, qui est pas d'invité, et que en fait moi je voulais défendre l'idée que cet orchestre ne ressemble à aucun autre et que c'est ça que je défends. Alors on peut détester, c'est un truc que j'accepte pas volontiers, mais de bon gré, mais on peut aussi se dire que voilà, c'est un truc qui ressemble à rien d'autre et que c'est bien que ça ressemble à rien d'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a la chance d'être demandé aussi dans des pays où c'est pas toujours facile d'aller jouer, etc. Parce qu'on a peut-être une identité qui est singulière et que c'est cette identité que je veux défendre aujourd'hui aussi.
Thank you.
Qu'est-ce que vous avez appris, vous, personnellement, de ce projet, au-delà, évidemment, de la spécificité de ce projet que vous avez décrit, que ce soit la thématique, la rencontre avec Hollenbeck, etc., le moment, juste à titre personnel, dans toute votre carrière, j'allais dire, musicale, qu'est-ce que ce projet a apporté ?
Une bonne question.
Même s'il n'est pas complètement fini, dans la mesure, enfin, le disque est quasiment sorti, mais bon, il est encore, j'imagine, en ébullition, on en parle.
Mettre ça sur pied pour la scène. C'est un projet qui a été aussi vraiment pensé pour la scène, parce que c'est un truc qui va être assez flamboyant sur scène, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. J'ai appris énormément pendant la gestation de ce projet, pendant aussi l'élaboration, les séances de studio, tout ça. C'était un processus extrêmement prenant, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ce que j'apprends, c'est à progresser dans ma manière de diriger l'orchestre, d'essayer de mieux connaître chacun des musiciens, de savoir comment les alchimies peuvent être encore plus puissantes et générer des choses inattendues, à affiner aussi mes désirs. Et du coup affiner aussi mes demandes. Donc ça, c'est un truc qui est sans fin, mais c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup amené à ça. C'est tout ça, c'est de l'ordre de la... J'ai beaucoup appris sur la manière d'énoncer les choses, en fait. De dénoncer, de demander, de fédérer, en fait, finalement, vraiment tout le boulot d'un directeur artistique. Mais là, c'était vraiment un gros, gros, gros dossier, parce qu'il y avait... l'idée aussi, c'était de faire du sur-mesure pour chacun des musiciens, donc un mini-concerto pour chacun des musiciens. Et en même temps, aussi un challenge pour chacun d'entre eux. Donc, il fallait trouver la bonne balance entre le truc où le challenge est tel qu'on en devient mal à l'aise, du coup, ça devient pénible... mais de trouver un truc qui soit pas juste un coup de vernis qu'on met sur les chaussures de quelqu'un qui a déjà des belles chaussures, mais plutôt d'essayer de lui faire une nouvelle paire qui le fera marcher mieux. C'était plutôt de cet ordre-là, donc, et à laquelle il va falloir qu'il s'habitue. Donc du coup, j'ai beaucoup gambergé là-dessus. Et alors après, il y a aussi tout un côté humain à savoir comment on va gérer ça. Parce qu'il y a eu des moments où chacun a eu ses moments de doute, de déstabilisation, de découragement, enfin, c'est toute proportion gardée, mais il y a eu des moments difficiles. Après, c'est moi qui dois gérer tout ça, parce que c'est moi le boss, donc c'est vers moi qu'on se tourne quand il y a un truc qui ne va pas. Et bon, quand un truc va, on peut aussi se tourner vers moi, mais on sait très bien que les responsabilités, c'est aussi savoir assurer... dans les moments où on a besoin de mieux comprendre les choses. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment un truc extrêmement fort. Et il y a un truc aussi où j'ai beaucoup appris, c'est sur l'idée de faire évoluer l'écriture de quelqu'un sans toucher à la plume. Ce qui est finalement quelque chose d'assez mystérieux, parce que moi, je n'ai pas écrit une note de musique dans ce projet-là. Mais j'ai l'impression que c'est mon disque, donc c'est pas du tout prétentieux.
Il n'y a pas une frustration justement par rapport à ça, même si évidemment, je n'ai pas écrit une seule note de musique, mais vous avez quand même bien participé, de ne pas justement être plus impliqué, même ne serait-ce que tout simplement de ne pas jouer par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration
Non. Parce que c'est un choix de ma part. Et le choix,
ça peut être un choix, mais au milieu du trajet, se dire se ronger les ongles en se disant.
Non, mais évidemment, il y a toujours des moments où je me dis bon, allez hop, ce soir, je vais aller sur scène, je vais jouer avec l'orchestre. J'ai envie de ça parfois. Après, moi, je me suis suffisamment battu pour que mon positionnement soit compris. Sans me jeter des fleurs, mais c'était un peu courageux de ma part de dire, voilà, je ne jouerai pas dans cet orchestre. Ça aurait été beaucoup plus malin de ma part de me dire, bon, je vais être bassiste de l'orchestre et en plus, je vais faire le directeur artistique parce que tout aurait été mieux compris. J'aurais eu une légitimité immédiate sur tous les fronts. Enfin, en tout cas, plus. Et sachant que le boulot de directeur artistique, c'est pas forcément un truc qui est extrêmement... c'est toujours un peu nébuleux. Pour peut-être pas mal de gens, je me suis dit, non, c'est pas grave, moi je suis dans la position d'un réalisateur de cinéma et je suis pas obligé de jouer dans mon film. Et j'ai aussi expérimenté les deux, c'est-à-dire j'ai expérimenté le fait de jouer dans des disques que je réalise, enfin de jouer et d'être directeur artistique en même temps, c'est très difficile parce que ça demande un pouvoir un peu de schizophrénie, d'être à la fois dedans et dehors. Et finalement, on perd un peu de chacun des mondes, quoi. C'est-à-dire qu'on perd un peu du dedans et un peu du dehors. Donc on a moins d'acuité sur une vision globale et on a moins de précision sur la performance elle-même, donc, parce qu'on est obligé tout le temps de faire une espèce de zoom avant, zoom arrière permanent. Donc voilà, moi je suis pas frustré parce que finalement quand l'orchestre joue, j'ai l'impression de faire un concert. Moi, la seule différence c'est que je suis pas en sueur à la fin et que le processus musical il est là en permanence. Et puis il y a aussi un truc, c'est que ce disque me ressemble. Donc d'une certaine manière, j'ai pas de frustration parce que alors ça paraît peut-être un peu mystérieux de dire qu'un disque dans lequel on joue pas et dont on n'a pas composé une note me ressemble, mais je sais qu'il me ressemble. Parce que c'est une espèce de croisement entre mes envies, mes idées, mon énergie à l'endroit des musiciens et aussi du compositeur, et le talent de chacun à mettre ça en place. Et moi... finalement comme espèce de chef cuisinier qui ferait monter la sauce, quoi. Enfin, c'est un peu voilà. Donc non, j'ai pas de frustration. Après, j'ai pas de frustration non plus parce que pour moi la musique c'est pas forcément l'instrument, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et complexe que ça. C'est-à-dire que ça fait quand même longtemps que j'ai accepté l'idée de monter sur scène en ayant une guitare entre les mains plutôt qu'une contrebasse ou une basse électrique. Et en n'ayant pas, enfin je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être un autre, mais et en n'ayant pas de soucis du regard qu'on va porter sur moi par rapport à ça. Je suis musicien, je joue certainement moins bien de la guitare que de la basse, parce que c'est pas mon premier instrument. Ou si je dois jouer d'un autre instrument pour accompagner quelqu'un ou pour un projet. Je vais pas me poser la question de savoir ce qu'on va penser de moi sur cet instrument parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler pour être un bon instrumentiste sur mes instruments principaux. Bon, il faut grandir un peu, c'est-à-dire que je peux pas... moi, mon but dans la vie, ça a jamais été d'être le bassiste le plus rapide de la planète, ni même le meilleur. C'est pas... Je serais bien emmerdé si on me demandait de dire qui est le meilleur bassiste du monde, quoi.
Comment on amène un projet comme ça sur scène, justement ? Quelque chose d'aussi écrit, d'aussi... est-ce qu'au contraire, justement, c'est l'opportunité de le faire évoluer ?
Là, en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il est déjà prêt pour la scène. Hein. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait pour l'enregistrement du disque, il est à la fois pour le disque, mais aussi pour la scène. Après la scène... Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller plus loin dans l'appropriation du truc, dans l'interaction entre les musiciens, dans la connaissance profonde du répertoire, ce qui est le cas de beaucoup de gens quand on sort un disque et qu'après on le fait vivre sur scène. Y a toujours des évolutions extrêmement intéressantes. Moi, à chaque concert de l'orchestre, je prends des notes et on en parle ensemble, je fais des remarques à chacun, j'essaye d'amener le truc dans des directions nouvelles, etc. Donc c'est jamais fini. Ce projet-là, il est vraiment... c'est un truc où on l'a enregistré en live, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de prises de chaque morceau parce que je voulais vraiment essayer plein de trucs, essayer des couleurs différentes, etc. Donc on a expérimenté en studio aussi. Mais le résultat qui est sur le disque, ça a été joué en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il y a quasiment rien. Il n'y a pas de trafic a posteriori. C'est donc ce qu'on entend sur le disque, c'est un truc qui peut être joué en live sans avec la difficulté qu'on a eu à le monter, mais sans plus de difficultés. Donc maintenant, ce répertoire, il est acquis. On va le répéter évidemment et retravailler dessus pour le remodeler et l'ouvrir un peu plus. Mais il est déjà très ouvert en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois très écrit et très ouvert. Les formes des morceaux sont, encore une fois, on fait référence à plutôt à de l'écriture classique. C'est des mini-concertos au sens où c'est pas un thème et puis une succession de solos et la reprise du thème à la fin et au revoir tout le monde. C'est vraiment des paysages qui se tuilent. On croit que le morceau est fini, puis il part ailleurs, etc. C'est vraiment narratif. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens, il y a énormément de logique dans l'écriture. Alors ça demande, pour capter cette logique, il faut l'écouter plusieurs fois. Bon, je pense qu'on la capte à la première écoute sans s'en rendre compte, mais après quand on l'écoute beaucoup, on se rend compte que il y a des thèmes qui réapparaissent, mais qui sont déguisés différemment à l'intérieur du même truc. Enfin, il y a une vraie pensée de composition qui est puissante. Pour moi, il y a une vraie... avec ce projet-là aussi, je voulais me rapprocher... je m'en suis jamais éloigné d'ailleurs, mais je voulais symboliquement me rapprocher du mot jazz. C'est-à-dire que quand on fait un hommage à Robert Wyatt, quand on fait un travail avec lui, avec Camille, avec Yael Naïm, enfin tous les gens avec qui on a bossé, bah forcément les gens se disent « Mais alors bon, c'est quoi? Est-ce que c'est du jazz? C'est pas du jazz ?» Enfin, c'est toujours l'éternel débat. Oui, l'éternel débat, ouais. Après, c'est pas forcément un débat qui est passionnant, parce que c'est un débat qui existe depuis la naissance du jazz, finalement. À chaque fois qu'il y a eu des choses un peu nouvelles qui sont arrivées.
La fusion est arrivée, l'électricité,
oui, puis c'était
jazz,
même avant.
Quand le bebop est arrivé, voilà. On a dit « Est-ce que c'est du jazz ?»
Donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, de notre part à Hollenbeck et moi, et de la manière dont les musiciens se sont appropriés la chose, pour moi, il y a une vraie réflexion il y a une vraie proposition, sans prétention, mais sur ce que le jazz peut être aujourd'hui. C'est pas la voix unique, mais en tout cas, il y a une vraie proposition de cet ordre, c'est-à-dire ces mélanges d'écriture assez savantes et d'improvisation. Les formes d'interaction sont différentes de ce qu'on peut entendre d'habitude. Parfois, c'est les vents qui jouent la rythmique pendant que la batterie fait des couleurs. Il y a vraiment tout un travail. Il y a aussi une incorporation de tout un tas d'éléments actuels dans le jazz, mais sans que ce soit utilisé comme des joujoux. Il y a de l'informatique, mais c'est pas pour mettre de l'informatique, parce que ça, on s'en fout. C'est juste parce que c'est un prolongement intéressant des instruments. Il y a des synthétiseurs qui sont utilisés vraiment comme un instrument de l'orchestre. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et finalement, on était tous, Hollenbeck, les musiciens et moi-même, en sortant, on se disait, on a fait un truc, on a l'impression d'avoir fait un truc qui ressemble à rien de ce qui existe. Voilà. Après, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, hein. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que il y a... Alors, évidemment, on pourra trouver des références, sûrement, et puis tant mieux, parce que on n'est pas une génération spontanée, on n'arrive pas en ayant aucune... Enfin, on a des bases, tout le monde a des bases, compositeurs, moi, les musiciens, enfin... Mais il y a vraiment un truc... une espèce de bousculade comme ça entre le sujet, le compositeur, la direction artistique, les musiciens, la réflexion sur cet orchestre un peu particulier. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui n'est pas comme le reste, et c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui. C'est un orchestre qui propose quelque chose de différent. Voilà.
Par rapport à la scène, justement, quand on est cinéphile comme vous, et que dans le titre « Shut up and dance », il y a le mot « dance », danse, est-ce qu'on n'a pas envie, justement, d'essayer d'amener un élément extérieur qui soit visuel, enfin, qui soit visuel sur film, ou des chorégraphes, peut travailler avec des chorégraphes, je ne sais pas.
J'y ai pensé, j'y pense, à vrai dire, à la collaboration avec des chorégraphes. Ce que je voulais pas faire, c'était concevoir le projet avec un chorégraphe, parce que j'avais pas envie d'incorporer la danse tout de suite, parce que j'avais l'impression que ça allait finalement me focaliser mon imagination sur une chose qui n'était pas forcément qui aurait paradoxalement pu me limiter à l'adaptation à une autre forme artistique. Je sais pas, c'est pas du tout péjoratif par rapport à la danse ce que je dis, mais il aurait fallu toujours que j'ai un œil dans le rétro par rapport à savoir ce qu'on va pouvoir faire avec le chorégraphe, etc. Bon, j'avais envie de me dire voilà, je fabrique ce projet, je fabrique cette musique, et après, je vais aller rencontrer des chorégraphes et on va voir ce qu'on peut en faire. On va peut-être bosser un jour avec un tel et puis 15 jours après avec un autre pour expérimenter des choses, pour voir. Donc évidemment, oui, ça m'intéresse beaucoup parce que le mouvement, c'est quelque chose qui m'intéresse sur le plan visuel aussi. Le rapport à l'image, c'est un truc qu'on a pas mal développé déjà, donc je pense qu'on ne va pas forcément développer ça sur ce projet-là. Mais en revanche, le rapport à la danse au sens chorégraphique, c'est un truc extrêmement intéressant dans ce projet-là. Après, faut trouver toujours le truc du niveau de lecture, il faut pas que la danse devienne le sujet principal, mais c'est assez facile à gérer ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais envie que le truc existe comme une entité complètement séparable de tout autre forme artistique. C'était un peu le truc de genre je me souviens plus qui avait fait un truc qui s'appelait Naked là où enfin bon, il y a plusieurs artistes à des moments de leur vie qui ont décidé de faire un truc où ils sont un peu déshabillés de leur soit de l'électricité, soit des arrangements. Voilà, là il y a un peu de ça dans le sens où j'avais pas du tout envie qu'on puisse avoir d'autres références que l'orchestre sur ce projet-là. Donc voilà, avec tous les risques que ça comporte. Hein, moi j'ai pas. On en vendra peut-être moins que le Wyatt et tout ça, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le projet soit compris et qu'il existe, qu'il trouve un vrai écho aussi sur scène. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre des musiques qui se posent ce genre de questions, quoi. Après, bon, je peux pas présager de qui va aimer ou pas aimer, mais en tout cas c'est un truc qui a été fait avec énormément de cœur et beaucoup de force humaine, hein, parce qu'il y a eu un truc aussi très fort sur le plan humain entre nous pendant l'élaboration de ce projet-là, quoi.
En un an et demi, quand on réunit comme ça 10 individualités, 10 instrumentistes très forts, jeunes, etc., avec vous, chaque projet est assez conceptuel, il y a une idée à chaque fois. Est-ce qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de, à la base, même si ça touche plein de sons, plein d'univers musicaux, il y a quand même le jazz. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie tout simplement de se mettre tous sur scène et d'oublier les projets et de juste faire une musique totalement libre?
Bah, on le fait.
Autre que pendant les répétitions éventuelles, j'imagine, ou
non, bizarrement, pendant les répétitions, on le fait pas du tout, parce que les répés, c'est.
Le temps est fait, le temps est compté.
On est ultra sérieux et. Et on lâche pas l'affaire, parce que quand on est nombreux dans un orchestre, on peut pas s'éparpiller comme ça, c'est difficile. Ou alors faudrait pouvoir répéter tous les jours et expérimenter des choses qui seraient fantastiques. Hein, mais non, c'est un truc qu'on fait déjà parce qu'on a une espèce de résidence, sur un certain nombre de soirées au cinéma Le Balzac. Où en fait on improvise sur des films muets. Et là, en général, jusqu'à présent, je le fais par demi-orchestre, parce que c'est quand même une salle qui n'est pas immense et où il n'y a pas vraiment de moyens de sonoriser. Donc c'est aussi un truc où il y a le challenge d'être débarrassé de tous les fils et les boutons et tout ça, la plupart du temps, quoiqu'on a fait des trucs électroniques là-bas aussi, mais. Et donc de se retrouver face à un film, on l'a fait sur Potemkin deux fois, donc avec deux fois espacé peut-être de 15 jours, avec une première version par une moitié de l'orchestre, et puis 15 jours après une autre version très différente par une autre moitié. Donc là c'est totalement improvisé, c'est-à-dire que moi je donne quelques directives aux musiciens en amont sur... des choses assez générales sur le rapport avec l'image, la non-obligation d'être narratif, le fait de ne pas toujours souligner ce qui se passe, mais parfois de laisser justement l'image respirer à son rythme le rapport au silence, le rapport à la spatialisation, parce qu'ils se baladent parfois dans le cinéma, ceux qui n'ont pas de fil à la patte. Donc ça, on continue à le faire. On a d'ailleurs le prochain rendez-vous, je crois que c'est le 28 septembre, 28 ou 29 septembre, j'ai plus exactement en mémoire la date précise, mais où on va faire un truc sur Folie de femme de Eric von Ström. On a le projet aussi de faire un truc sur Metropolis, où là, on fera tout l'orchestre, parce que c'est un film gargantuesque qui fait 3h40, je crois. Et là, ça serait l'idée d'avoir... peut-être 45 minutes, 5 personnes, les 45 suivantes, 5 autres, et après un truc tous ensemble. Donc on a fait des trucs comme ça, on a fait des choses comme ça, et moi j'ai envie qu'on le fasse plus souvent. On le fait aussi sur scène, finalement, dans certains programmes. Alors les gens s'en rendent peut-être pas compte, parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas vu la fois d'avant, mais... Par exemple, sur le Billy Holiday, on a énormément ouvert, on a un peu élagué les arrangements. Il y a pas mal de moments qui sont improvisés. Même sur le Wyatt, qui paraît un programme très cadré, il y a des tas de choses qui se passent aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement tout ce qui est écrit sur la partition. Il y a des libertés qui sont prises par les musiciens. Donc il y a cet élément-là. Et bon, moi, c'est un truc que j'ai envie de développer aussi. Après... 10 personnes qui improvisent en même temps, ça demande, à mon avis, enfin à mon goût en tout cas, ça demande une certaine direction artistique justement. C'est possible, mais il faut réfléchir à ce que ce soit pas une jam, mais ce que ce soit vraiment de l'improvisation, avec peut-être des directions. C'est un truc dans lequel Miles Davis excellait... Bon, même si c'était rarement avec 10 personnes, mais de pouvoir faire jouer une musique très libre à des musiciens, mais sans que ce soit une jam. Et dans la musique de Miles, enfin en tout cas moi, j'ai pas du tout l'impression d'entendre des gens qui jamment, parce qu'il y a un penseur derrière. Il y a quelqu'un qui distribue les cartes, qui observe, qui réagit, qui dirige, qui gère les nuances... etc. Et moi, je le vois pas autrement. Après, moi, j'adore personnellement faire des concerts totalement improvisés, mais c'est souvent dans des petites formes où on est 2, 3, etc. Et voilà, à 10, c'est un autre truc. Faut y réfléchir vraiment sérieusement. Je suis pas du tout opposé à ça. Hein. Je prends note d'ailleurs.
Après ce projet, donc il n'est même pas totalement bouclé, on va dire, puisque il y a la scène, etc. D'autres envies, d'autres idées déjà.
Ouais, j'ai un nouveau projet sur le feu, enfin en tête plutôt. Bon, après je peux pas vraiment vous en parler parce que je suis en plein
brainstorming.
Voilà, donc c'est pas encore bien précis. Enfin, c'est assez, ça se précise, mais j'attends que ce soit vraiment précis. Moi, j'ai besoin quand je parle jamais d'un projet avant qu'il ait un nom, une carte d'identité, j'ai besoin pour pouvoir parler d'un truc qui est que ça puisse se résumer en une phrase.
Est-ce qu'il y a à chaque fois, comme chaque projet est vraiment la carte d'identité est très très précise et très dense, est-ce qu'il y a un peu une volonté pas de construire contre le projet précédent, mais de faire vraiment autre chose, d'aller visiter un pays vraiment qui n'a rien à voir.
Oui, il y a de toute façon, depuis le début, il y a un travail sur la complémentarité de tout ce qu'on a fait depuis le début. Le Wyatt, c'est un truc qui faisait clairement référence au rapport entre la chanson, le jazz, la pop, etc. Il y avait toute une réflexion là-dessus. Le Biolidé, c'est un travail sur un patrimoine de chansons de Broadway, savoir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, comment on peut... passer par d'autres chemins que ceux qui ont été empruntés à l'époque, etc. Le Carmen, c'est savoir comment... là, c'était vraiment un travail de composition de l'orchestre pour leur donner la plume, et ça, c'était un moment extrêmement fort. Tous ces programmes continuent à tourner, d'ailleurs. Et c'est loin d'être fini. Le Chanapan Dance est déjà, comme je l'expliquais un peu avant... une espèce de réaction par rapport au projet précédent, dans le sens de ce que j'ai pu vous expliquer sur une espèce de côté, voilà, on est un orchestre et il n'y a pas de sujet, enfin si, il y a un sujet évidemment, mais il n'y a pas d'éléments qui pourraient perturber la la lecture qu'on peut faire de ce projet. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, bah, voilà, soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais vous ne pourrez pas vous raccrocher à la voix de Robert Wyatt. Ou à... il y a vraiment une vraie... comment dire, un vrai positionnement identitaire d'un orchestre. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à, en toute modestie, mais ça me fait penser à, esthétiquement ça n'a absolument rien à voir, mais ça me fait penser au moment où ECM a commencé à faire de la musique, enfin à publier des disques. Je me souviens qu'on se disait, tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Il y a une esthétique... un peu des fjords comme ça, mélangés à la culture jazz et tout ça. Il y avait un truc qui était quand même un peu... qui à la fois devait... enfin, avait des racines dans l'histoire du jazz, tout ça, mais en même temps avait des propositions différentes et...
Et qui, au bout du compte, on en a presque l'expression, c'est, ça fait très ECM quand on parle même
oui,
des
voilà.
projets parfois qui
ouais,
sont pas du ECM,
voilà.
On dit, ça c'est très
ouais,
ECM, et
sûr,
tout de suite
ouais,
la personne
ouais.
comprend ce que ça veut dire.
Donc ça, là, ce projet-là fait pas du tout référence à ça, mais je pensais au fait de... Enfin, en fait, finalement, les gens qui étaient chez ECM au début, pas forcément tous, mais... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc identitaire très fort, parce que je pense que c'est des gens qui se sont... réellement poser la question de savoir ce qu'on peut faire du jazz à un moment M dans un pays P. Et pour moi, c'est un truc extrêmement important parce que bon, moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié le jazz aux États-Unis, je suis imprégné de cette culture, mais pas seulement. Mais le matin, quand je me lève, je vois pas les rues de Harlem, j'ai pas vécu... de lutte raciale, j'ai pas été dans des histoires... j'ai pas vécu la même chose que Charlie Parker ou que je ne sais qui. Et donc, je me suis toujours dit, bon, bah voilà, moi, je me rapproche au maximum de l'essence de cette musique en faisant un vrai travail d'apprentissage que je fais encore aujourd'hui. Mais quand je prends la parole en tant que leader, que ce soit de l'Orchestre National de Jazz ou en tant que leader de mes propres projets, je me pose toujours la question... Enfin, très naturellement, hein, c'est pas un processus intellectuel où je me prends la tête entre les mains. Parce que, en fait, tout ce que je dis a l'air d'être très réfléchi, mais il y a beaucoup d'intuition là-dedans aussi. Hein. Mais je me suis toujours dit, bon, qu'est-ce qui ressemble à ma vie, à mon environnement, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une musique qui ressemble à ce que... qui me ressemble, quoi. Et la tentation dans le jazz, c'est de se dire qu'on va peut-être faire une musique qui ressemble à ce CEUX qu'on aime. Et finalement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, européen, avec tout ce que j'ai engrangé comme musique, tout ce que j'aime, toutes les musiques qui me bercent aujourd'hui, etc. Tout ce qu'écoutent mes musiciens, qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit du jazz, parce que pour moi c'est vraiment du jazz, avec cette espèce de liberté et cette espèce d'audace, entre guillemets, de vraiment présenter un truc qui soit identitaire, quoi, c'est-à-dire pas... Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'y comprends rien, ou j'en sais rien, ou ça m'emmerde parce que ça ressemble pas à ce que j'écoutais il y a 20 ans. » Enfin là, moi, je peux rien faire là-dessus, c'est la vie, c'est comme ça. Et il n'y a pas du tout d'ailleurs d'idée de rupture ou de provocation, parce que c'est pas du tout de la rupture. C'est juste, quand je repense à cette histoire, disais par rapport à ECM, et même aussi, il y a pas mal de musiciens français qui se sont posés cette question et qui ont réussi à développer un truc assez fort où ils ont un peu clamé leur identité à travers, je sais pas, des références à leur vie, leur folklore, leur passé, la chanson française, enfin plein de trucs comme ça. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient et à quoi on ressemble quand on joue de la musique. Donc je pense que c'est se nourrir de plein de choses, c'est un truc, enfin pour moi, essentiel. Et après, c'est vraiment essentiel aussi d'oublier de quoi on s'est nourri pour aller où on a envie d'aller et pas se poser finalement beaucoup de questions, parce que là j'essaye d'expliquer un processus, donc forcément c'est un peu didactique, mais finalement ce processus il est totalement naturel chez moi, c'est-à-dire je me pose pas ces questions en ces termes, avec un papier, un crayon, en me disant voilà, moi je fais un projet, j'y réfléchis assez longtemps, une fois qu'il est fini, j'essaye de voir comment je vais pouvoir l'offrir aux gens, dans le meilleur habit, que ce soit d'ailleurs en ce qui concerne le visuel, la pochette, le livret, etc. Moi je travaille énormément avec les graphistes là-dessus, je passe beaucoup de temps à détailler chaque chose, et c'est moi qui suis à l'impulsion de tout ce qu'il y a de graphique dans tous les disques que je fais. Parce que pour moi, c'est un objet enfin, total, un disque. C'est-à-dire, c'est un objet d'art. Donc, quand on est... si j'étais photographe, je m'intéresserais à comment mes photos vont être exposées, où, sous quelle lumière, etc. Donc, pour moi, c'est fondamental que tout soit en accord avec le projet. Donc, toutes ces questions-là, je me les pose une fois que le projet existe, et je me dis bon, voilà comment je vais verbaliser ça, comment je vais pouvoir en parler, comment je vais être compris par tout le monde. Si demain je dois aller dans une je sais pas moi, dans une médiathèque où les gens sont venus parce qu'ils avaient annulé la séquence sur les ours polaires et que c'est moi qui m'y colle, il faut que je puisse être capable, devant 50 personnes ou 100 personnes qui savent pas qui je suis et qui s'en foutent, de pouvoir les intéresser en leur disant voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, et les mettre en condition pour qu'ils puissent écouter la chose en question, quoi.
Pour savoir un peu plus qui vous êtes, donc il faudra attendre jusqu'au 30 septembre, ouais. Daniel Ivinec, pour écouter donc Shut Up and Dance, donc le nouvel album de l'Orchestre National de Jazz, donc vous êtes le directeur artistique. Merci Daniel Ivinec.
Merci beaucoup.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.